Ici. La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots aujourd'hui vous propose la deuxième émission de notre documentaire sur la langue occitane que nous réalisons en partenariat avec la délégation générale à la langue française et aux langues de français. Aujourd'hui, on s'occupe d'enseignement et de transmission de cette langue occitane. Eh bien, il y a quand même un paradoxe, parce que pendant longtemps, l'école a stigmatisé la langue occitane pour imposer le français. C'est-à-dire que les élèves qu'on surprenait à parler ce qu'on appelait le patois dans les classes étaient moqués, étaient humiliés, mis au fond de la classe. Ça, c'est bien fini, c'est sûr. Non seulement c'est fini, mais l'occitan a sa place à l'école parce qu'on l'enseigne. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Oui, bien évidemment. Oui et non en même temps, parce que devant cette situation, on ne peut que constater qu'elle existe parce que la langue occitane n'est plus présente dans les familles. Il n'y a plus de transmission familiale des parents à enfants. Alors, la présence de l'occitan à l'école, elle remplace cette absence de la langue entre les parents et les enfants. Elle ne soutient pas une langue déjà en usage, mais elle la propose pratiquement comme une langue étrangère. Alors, comment ça se passe? Lucie Bouteloup et moi, nous sommes rendus dans cette région occitane, à Toulouse en particulier, et Lucie a mené l'enquête. Bonjour, Lucie.
Vous voyez que
je vous dis bonjour parce que je me mets à l'occitan. Alors, vous avez pris votre loupe dans une main, votre micro dans l'autre. Qu'est-ce que vous allez nous faire entendre?
Bonjour, Yvan. Alors, comme le breton et le basque, il faut savoir que l'occitan a pu bénéficier de la loi d'Aixonne qui a permis l'enseignement des langues régionales à l'école.
Loi d'Aixonne ancienne, hein. Ça date de 1951.
Exactement. Et il aura fallu attendre 1979 pour que la première calandrette ait pu ouvrir ses portes.
Une calandrette, c'est-à-dire une école associative, gratuite, laïque, qui propose un enseignement en immersion.
Tout à fait. Et dans le public, il aura fallu attendre 1989 pour que l'éducation nationale consente à ouvrir la première section bilingue à Centrafrique. Alors, pour mieux comprendre les problématiques de l'enseignement en Occitanie, il faut tout d'abord rappeler qu'on parle d'une aire culturelle immense qui comprend 5 académies.
Alors, le territoire est vaste, vous l'avez souligné vous-même. Hier, on se demandait quel occitan on parlait, est-ce que c'était le même de l'est à l'ouest? On peut se demander aujourd'hui quel occitan on enseigne.
Eh bien, pour en savoir plus, je suis allée à la rencontre d'Estef Cross, le directeur de l'Office public de la langue occitane, l'OPLO. C'est un organisme qui travaille conjointement avec l'État et les régions pour le développement et la sauvegarde de la langue occitane. Il m'a fait un état des lieux de l'enseignement. Mais avant, il m'a expliqué quels occitans on enseignait sur cet immense territoire.
Alors, l'occitan qui est enseigné dans les écoles est un occitan qui se rapproche le plus fortement possible des parlers occitans locaux, puisque l'occitan, comme l'ensemble des langues en réalité dans le monde, admet des variations locales. Et donc, les circulaires, notamment de l'éducation nationale, encouragent les professeurs à utiliser un occitan local. Mais un occitan local, ça ne veut pas forcément dire l'occitan tel qu'il est parlé par les grands-parents des élèves ou les parents des élèves. C'est-à-dire que c'est un occitan qui est néanmoins normalisé. Normativisé, on pourrait dire en occitan. C'est-à-dire qu'ils recherchent une sorte de substrat commun qui permet aux élèves, même s'ils parlent une forme locale de l'occitan, par exemple le Bernais en Béarn, qui leur donne les clés pour comprendre l'ensemble des parlers occitans. Alors, il y a une graphie commune, qui est dite graphie classique, parce qu'en fait, elle est très fortement inspirée de la graphie des troubadours occitans, hein, ces grands écrivains, les premiers écrivains peut-être de l'Europe qui ont diffusé la langue occitane au travers de l'Europe. Et cette graphie permet effectivement de comprendre l'ensemble des parlers occitans. Alors, est-ce que c'est exactement le même mot qui s'écrit de la même façon dans tous les territoires? Non. Même à l'écrit, on voit quand même des variations dans la façon d'écrire l'occitan, mais qui n'empêche pas, en tout cas, l'intercompréhension pour tous ces élèves qui apprennent l'occitan à l'école. Voilà.
Alors aujourd'hui, moi, je veux scolariser ma fille, je veux qu'elle apprenne l'occitan. Quelles possibilités s'offrent à moi ?
Alors, il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous, de la plus intensive à la plus extensive. Donc, vous pouvez aller, par exemple, souhaiter mettre votre enfant dans une école dite bilingue immersive, où la vie de l'école et le cours se font principalement en langue occitane. Alors cette modalité est surtout présente dans les écoles immersives calandrettes, les écoles associatives. Et à titre expérimental, on a ouvert cette possibilité pour les écoles bilingues publiques. Vous pouvez avoir une modalité qui est le bilingue à parité horaire, alors qui est développée dans les écoles bilingues publiques, c'est-à-dire parité horaire, c'est-à-dire que la moitié de la journée, votre enfant sera scolarisé en langue occitane et l'autre moitié de la journée, votre enfant sera scolarisé en langue française. C'est-à-dire qu'il y aura des disciplines comme les mathématiques, par exemple, ou l'histoire géographique qui vont pouvoir être enseignées à votre enfant en occitan. Et d'autres disciplines le seront en français.
Et on est vraiment sur une parité horaire ?
Oui, on est très exactement à parité horaire pendant le temps de classe.
De la maternelle au lycée ?
Non, de la maternelle au CM2. En sachant que pour la filière calendrette, le système immersif mis en place jusqu'au CM2 continue au travers des 4 collèges calendrettes et du lycée calendrette jusqu'au bac. Ils ne sont pas tout à fait encore au bac, mais l'année prochaine, ils y seront. Et pour ce qui relève des établissements collèges et lycées publics, ce sont des systèmes où on n'a pas la parité horaire. L'idée, c'est d'y arriver, mais pour l'instant, on n'y est pas. On est plutôt sur 2 heures d'enseignement de la langue occitane et 3 heures d'enseignement d'une autre discipline, comme l'histoire-géographie, par exemple, ou les mathématiques ou la technologie, qui peuvent être enseignées en langue occitane.
Pour le collège et pour le lycée.
Pour le collège et pour le lycée. En sachant que, contrairement à d'autres langues régionales, pour la langue occitane, la priorité a très longtemps été mise sur l'enseignement primaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment développé une offre bilingue, que ce soit dans les calendrettes ou dans les écoles bilingues publiques. On a vraiment développé une offre au primaire en délaissant quelque part un peu le second degré. Et il s'avère aujourd'hui qu'on a des gros manques par rapport au second degré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel que l'offre est organisée, nous n'arrivons pas encore au lycée à ce que des élèves sortent avec le niveau d'un bilingue complet, d'un bilingue actif, c'est quelqu'un qui est parfaitement bilingue. Donc ça commence à changer, puisque aujourd'hui, le lycée calendrette et le lycée bilingue public qui vient d'ouvrir donc à Lavore, dans le Tarn, vont permettre de rattraper ce retard. Juste pour préciser, c'est qu'actuellement, nous n'avons pas de classe de terminale bilingue, puisque le lycée calendrette a ouvert il y a 2 ans et que le lycée public a ouvert l'année dernière. Ce qui fait que dans 2-3 ans, on aura enfin les premiers élèves qui auront fait un cursus complet dans l'enseignement bilingue, qu'il soit public ou calendrette. Et ça, c'est quelque chose de très novateur et porteur d'espoir pour nous.
Donc il y a l'enseignement associatif, il y a l'enseignement public. Est-ce qu'on enseigne aussi l'occitan dans l'enseignement privé ?
Oui, alors il y a de l'occitan dans l'enseignement privé. Alors il y a très très peu d'enseignement bilingue dans l'enseignement privé. On a qu'en Béarn, où il y a 1 ou 2 écoles bilingues privées. En revanche, dans le second degré ou dans l'enseignement de l'occitan, on a effectivement une offre dans le privé qui est quand même plus réduite par rapport à l'enseignement du public ou de l'enseignement associatif calendrette.
Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu d'effectifs maintenant ? Combien d'élèves ça concerne l'enseignement de l'occitan ?
Alors, pour l'enseignement immersif, donc qui est dispensé principalement dans les écoles calendrettes, alors je vais préciser juste que je vais donner des chiffres qui ne concernent que les 5 académies qui sont couvertes par l'Office public de la langue occitane. Donc sur ces 5 académies, nous avons pour l'enseignement calendrette environ chiffres ronds, parce qu'on n'a pas encore les derniers chiffres de la rentrée, mais on est environ à 3500 élèves dans les écoles primaires qui sont répartis sur une 60aine d'écoles primaires sur les 5 académies. Et pour l'enseignement public, on est environ à 6500 élèves qui sont répartis sur une 100aine d'établissements du premier degré des écoles. Et pour le second degré, on est sur 4 collèges immersifs, calendrette et un lycée, pour 300 élèves environ. Et dans le public, on doit être pour une quinzaine d'établissements, pour 600 élèves environ.
Ce qui pose un énorme problème de fléchage, en fait, quand on commence sa scolarité, même si on le désire, on n'a pas forcément les structures pour pouvoir continuer sa scolarité en occitan.
Alors, normalement, on peut plus ou moins continuer sa scolarité en occitan. En revanche, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est la possibilité forcément de continuer avec la même modalité d'enseignement. C'est-à-dire que si vous avez votre enfant est scolarisé en classe bilingue, c'est pas évident qu'il puisse trouver au collège et au lycée un suivi bilingue. Mais en revanche, il y aura toujours normalement plus ou moins une modalité d'enseignement qui lui sera proposée.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'au-delà de l'enseignement bilingue, il existe aussi un enseignement de la langue occitane, comme on peut enseigner l'anglais, par exemple, à raison de quelques heures par semaine.
Donc à ce moment-là, l'occitan est envisagé presque comme une langue étrangère et donc comme une langue vivante 2, par exemple, ou on peut le prendre en langue vivante 1 ?
Alors, langue vivante 1, non. Ce n'est pas possible, mais en revanche, on peut prendre l'occitan en langue vivante 2. Et on peut prendre l'occitan aussi comme une option facultative, en plus de la langue vivante 1 et de la langue vivante 2.
Alors, quelle est la tendance de la demande pour l'occitan ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'enfants ou de parents qui souhaitent scolariser leurs enfants en occitan ?
Alors, pour ce qui est de la demande, on constate qu'il y a une croissance régulière au fur et à mesure des ans, qui est de l'ordre de 4-5%, ça dépend des années, qui parfois est de 10% selon les territoires.
Tout cursus confondu.
Non, c'est surtout sur l'offre d'enseignement bilingue qui connaît un grand succès. Et chaque année, il y a de nouvelles écoles bilingues qui ouvrent un peu partout sur le territoire. En revanche, pour ce qui relève de l'enseignement de la langue occitane, c'est une modalité qui est un peu plus en difficulté, notamment dans le second degré.
Donc on parle de l'occitan en langue vivante 2.
Voilà, langue vivante 2 ou en option facultative, notamment par le fait qu'on a un gros problème de ressources. C'est-à-dire que tous les rectorats font valoir qu'ils n'ont pas assez de ressources enseignantes. C'est pour ça que nous, à l'Office, on a mis en place des dispositifs pour inciter les étudiants à s'inscrire dans les filières pour devenir professeur des écoles bilingues. Donc cette année, une formation à l'occitan a ouvert à l'ESPE d'Aquitaine, avec l'appui de l'Office public. Et on encourage aussi de nouvelles formations, comme à l'Université Paul Sabatier à Toulouse, ce qui est quelque chose qu'on va avoir tendance à renforcer, en plus de l'offre qui existe déjà dans les universités, comme à Jean Jaurès à Toulouse, à Paul Valéry à Montpellier, etc. C'est parfois difficile de dire non à des parents qui veulent ouvrir une section bilingue depuis plusieurs années, tout simplement parce qu'on n'a pas le ou la professeur d'occitan qui peut enseigner aux élèves en occitan, de façon bilingue.
Alors, pas assez de professeurs, mais est-ce qu'il y a assez de matériel pédagogique en occitan ?
Assez, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de plus en plus de matériel pédagogique en occitan. Alors, il y a en gros trois grandes variantes qui se dégagent de l'occitan sur le territoire de l'Office, et c'est dans ces trois grandes variantes que le réseau Canopé fait ses productions pédagogiques, à savoir le gascon, le limousin et le languedocien, qui sont des grandes variantes de l'occitan. Mais c'est toujours un gascon, un languedocien ou un limousin qui est quand même normalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement le limousin, par exemple, que l'on va parler soit à Périgueux, soit à Limoges. Ce sera une sorte de limousin normalisé. Donc les ouvrages de mathématiques, par exemple, sont rédigés dans trois occitans différents. Soit vous prenez la version en limousin, soit vous prenez la version en gascon, soit vous prenez la version en languedocien, selon que votre école est située en zone plutôt languedocienne, gasconne ou limousine.
Alors quel est le prochain pari autour de l'enseignement de la langue occitane ?
Selon les données de l'UNESCO, en général, il faut qu'au moins 30% d'une classe d'âge soit en capacité et utilise une langue pour que celle-ci sorte de la zone en danger dans laquelle, par exemple, l'occitan se trouve actuellement. Donc il faut qu'à terme, on arrive à dépasser le seuil de 30% de personnes bilingues occitan français pour que l'occitan sorte de cette zone en danger. Donc notre objectif, c'est d'arriver à ça. En sachant que, pour l'instant, la transmission familiale de l'occitan est encore relativement faible. L'idée, c'est de renforcer la transmission familiale, bien évidemment, mais la principale transmission se fait néanmoins par l'école, d'où l'importance d'avoir une offre la plus forte possible. Et aujourd'hui, selon les académies, on est entre 2,2-2,3%, par exemple l'Académie de Toulouse, ou 1% Académie de Montpellier. Donc on a encore des marges de progression pour arriver à ces 30%. Et Académie de Bordeaux, on est à peu près 1% aussi, dans les filières bilingues. Après, si on prend les formes d'enseignement comme l'option ou la LV2, là on a atteint des chiffres un peu plus importants.
Donc un objectif ambitieux hein, au regard des chiffres qu'Estève Cross vient de nous donner.
Oui, mais alors comment peut-on faire pour séduire les élèves et en tout cas pour les convaincre de choisir la langue occitane, soit en option, soit en filière bilingue ?
Eh bien c'est précisément la question que j'ai posée à Marie-Pierre Vernière, qui est professeure de littérature et aussi cofondatrice de l'unique collège Calandrette de Toulouse.
Pour motiver les élèves à apprendre tout ce qu'ils ont à apprendre en occitan, déjà, il faut les faire réussir. C'est la première chose. On a des élèves qui sont partis dans le cursus traditionnel, qui ont essuyé des échecs, qui reviennent vers nous. Et nous, on s'engage à les embarquer, à leur dire, écoute, on s'y met tous ensemble, mais nous, on fait un contrat et on va t'aider à trouver les moyens pour que tu réussisses. Et voilà, ça, c'est nous, notre défi à nous. La réussite scolaire pour être motivé et pour trouver du sens à ses apprentissages. Et pour réussir, c'est nous, notre devoir pédagogique, avec eux, et pour eux, construire du sens à chaque apprentissage. Alors ça peut être les pédagogies de projet, ça peut être les dispositifs collaboratifs, ça peut être plein de choses, ça peut être les sorties, les différents intervenants, des rencontres, mais ça c'est notre devoir. Et ensuite, ce qui peut les aider, les motiver à rester là, à décider de s'engager vraiment pour 4 ans dans cet enseignement en occitan, c'est de voir que l'occitan, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que grâce à l'occitan qu'ils ont, et qu'ils puissent se mesurer comme une richesse, ils sont beaucoup plus malins pour s'engager dans l'apprentissage des langues vivantes. Ils voient que pour eux, l'espagnol, c'est beaucoup plus limpide, c'est transparent. Le portugais, le catalan, l'italien, toutes ces langues latines, on commence plutôt par ça, cette proximité de famille linguistique. Pour eux, je comprends tout. Ah oui, mais c'est super simple, ça ressemble à l'occitan, ça fuse dans tous les sens. Et du coup, là, ils acquièrent là des mécanismes cognitifs, linguistiques, qui après se retransposent à l'anglais, à d'autres langues. Et ça, déjà, ils le touchent du doigt. Ils voient que ça, finalement, quand on s'appuie sur ça, sur ce qu'ils savent déjà, c'est plus facile. Donc ça vaut le coup de rester dans l'occitan. Ça vaut le coup de s'en servir de cette langue que tout le corps social annonce morte et ou désuète. Et puis, c'est une langue qui a une réalité historique extrêmement tangible. Et je pense que c'est notre devoir aussi de prof, de pédagogue, de donner aux élèves les billes pour lire leur paysage dans lequel ils ont choisi de vivre, qu'ils soient nés ici ou pas, dans Toulouse, tous les noms de rue, que les plaques soient bilingues ou pas, de toute façon, la racine est à identifier, tout ce qui est l'onomastique du sud de la France. Un gamin qui est occitanophone, c'est limpide, il comprend la Berneiros, qu'est-ce que c'est, la Sfarguetos, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, j'ai pris que des noms, des toponymes sur des noms de barbres, ce qui est quand même très fréquent. La Falgueiro, la Sfarguetos, la Sfarguetos, là, c'est plutôt un corps de métier, c'est là où se travaillait le fer. La Falgueiro, c'est le versant plutôt au nord, où il y a des fougères, dans une forêt, voilà. Et pour eux, c'est limpide, parce qu'ils savent ce que c'est la Fargo, ils savent ce que c'est la Sfarguero. Et du coup, le paysage devient lisible, ils deviennent plus malins, ils comprennent le paysage. Et ils voient comment l'humanité l'a écrit, l'a transcrit, se l'est approprié et lui a donné du sens. Ça, je pense que c'est quand même un devoir. On parle beaucoup de peuples déracinés, de cultures déracinées, de gamins, de jeunes générations qui ne savent pas d'où elles viennent, d'où elles sont. Je pense que ce qui est important, c'est qu'ils y soient nés ou qu'ils aient choisi ce pays, c'est absolument la même chose. Mais au moins qu'ils le comprennent, que ce pays ait de l'intelligibilité pour eux.
Calandrette, en occitan, ça veut dire alouette, mais aussi petit apprenti.
Calandrette, jolie calandrette. Est-ce que vous les avez plumées, ces calandrettes?
Et pour tous ces jeunes apprentis du Collège de Toulouse, la promesse de réussite scolaire grâce à l'occitan semble tenue puisque la dernière promotion de 3e, qui a passé son brevet en 2017, a eu 100% de réussite au brevet et 100% de mention très bien. Des chiffres qui peuvent laisser rêveurs quelques parents d'élèves. Même s'il faut préciser toutefois que l'année dernière, il n'y a pas eu de promotion faute d'élèves de 3e. Alors, dans ces calendrettes, les conditions d'enseignement sont très privilégiées. La classe de 3e du collège ne compte par exemple que 15 élèves.
Alors, il faut préciser aussi que l'ensemble du réseau calendrette repose sur une pédagogie freinée, une pédagogie active donc, qui met en avant des rapports de hiérarchie horizontaux, c'est-à-dire l'implication des élèves et des parents dans des projets participatifs.
Alors moi, je dois dire qu'en assistant au cours de littérature française, donné en occitan donc, puisqu'on est sur la base d'une éducation en immersion, j'ai été très frappée par l'ambiance studieuse en classe et par la participation des élèves. Je leur ai donc tendu mon micro. Pourquoi ont-ils choisi ce type de filière en immersion ?
Alors, de qui n'avais-je compris pas dans quel concept est d'autofiction ? Christophe ?
C'est comme une autobiographie, on a fait une améliorate avec une corde fantastique et des fictions.
En fait, dans notre collège, il n'y a pas que l'occitan qui nous intéressait à apprendre, c'est aussi le système d'apprentissage. L'occitan, c'est un plus. Et ça nous intéresse même pour apprendre d'autres langues.
Du coup, grâce à ces notions, on peut se lancer aussi dans d'autres langues latines, comme l'italien. Ou grâce au cours qu'on a, comparaison de langues, on peut se joindre à différentes langues et comprendre du vocabulaire plus facilement à travers la langue et une certaine pédagogie, on va dire plurilinguisme.
Aussi, moi, je trouve que c'est important de continuer à faire vivre la langue et la faire parler par des plus jeunes pour continuer à la développer, à agrandir son cercle de parole, des gens qui la parlent.
Vous utilisez l'occitan chez vous ? Est-ce que c'est une langue que vous parlez chez vous ? Est-ce que vos parents parlent occitan ?
Non.
Donc en fait, tu parles occitan, tu utilises cette langue uniquement à l'intérieur de l'établissement avec les professeurs, puisque j'ai cru comprendre qu'entre élèves, vous parlez plutôt français entre vous.
Oui, on a tendance à plus parler français parce qu'on a quand même tous une facilité aussi pour le français.
Toi, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu as fait le choix, après avoir quitté le système en immersion, tu t'es retrouvé donc au collège dans un système public où tu avais donc l'occitan en option. Pourquoi c'était important pour toi de revenir dans une calendrette en immersion ?
Parce que les cours ici sont plus faciles, les profs s'intéressent beaucoup plus à toi, ils t'expliquent mieux que dans les collèges publics. Parce que dans une classe de 15, c'est plus facile que dans une classe de 30.
D'accord, et toi, est-ce que t'es content de faire plus d'occitan, du coup ?
D'un côté, oui, et d'un côté, non, parce que si j'en fais plus, je m'en fiche, parce que genre, je sais que plus tard, je vais pas l'utiliser. On va l'oublier, parce qu'on fera des métiers en français.
Alors, pourquoi c'est important pour toi de continuer, donc ?
Parce que c'est une langue qui va disparaître, et que c'est dommage.
Avant, quand tu parlais pas toi, dans les écoles ou tout ça, tu te faisais punir, tout ça, c'était une langue qui était interdite de parler. Et donc, du coup, ce qui a fait une grosse baisse, tu parlais que en famille, là-bas, cette langue. Et du coup, cette langue est en train de renaître, et c'est ce qu'il faut, c'est maintenir les langues régionales. Il n'y a pas qu'une langue dans un pays, et c'est ça qui fait un petit peu la beauté et la culture d'un pays.
Et est-ce que vous pensez que vous allez utiliser l'occitan dans votre vie professionnelle ?
Si ça pourrait un jour déboucher sur quelque chose comme ça, ça serait incroyable, je pense, ça serait quelque chose de magique. Mais après, je me vois pas vraiment dans ma profession utiliser l'occitan. Après, ça dépend de ce qu'on fait, je veux dire, mais après, je me vois pas utiliser l'occitan.
Vous pourriez être prof d'occitan, par exemple ? Non, ça vous branche pas. Et alors, est-ce que vous écoutez de la musique occitane ?
C'est pas trop à la mode, c'est un petit peu vieillot.
Et la littérature en occitan ? Je veux dire, sortie de la vie de l'école, est-ce que vous avez la curiosité de cette culture occitane par la littérature, par la musique ?
Moi, maintenant, je vais pas lire des livres en occitan, mais quand j'étais petite, mon père, il me lisait l'histoire du soir en occitan.
Alors, c'est pas un peu paradoxal d'avoir envie de sauver la langue en se disant que il faut qu'il y ait de plus en plus de locuteurs, d'avoir une curiosité relative pour les auteurs occitans et de pas s'intéresser à la musique en trouvant que c'est ringard?
Moi, je trouve que ça dépend des branches. Certes, la branche que 75% des Français connaît, c'est le côté vieillot de la musique occitane. Mais si on creuse, on peut trouver des musiques qui peuvent plaire à un grand public, qui peuvent être très intéressantes, de la littérature très intéressante aussi. C'est juste que la langue nous est présentée sous un mauvais œil et que du coup, les gens croient que c'est une langue vieille parlée par des vieux, que c'est inintéressant. Il y a beaucoup de groupes, notamment de musique, qui, même des poètes, des gens qui contribuent à rajeunir cette langue et à la faire vivre de nos jours, mais ils ne sont pas assez montrés sur nos médias.
Il y a aussi une particularité des calendrettes, c'est qu'elles ont été créées à l'initiative de parents motivés, comme Marie-Pierre Vernière qu'on écoutait tout à l'heure. Alors, la langue occitane est proposée aussi dans le service public. Comment ça se passe, Lucie ?
Eh bien, c'est ce que j'ai demandé à Nicolas Rébette-Bédé, qui est le directeur de la FELCO. La FELCO, c'est une fédération de professeurs d'occitan, issus majoritairement de l'enseignement public. Et je lui ai demandé s'il se sentait soutenu par l'éducation nationale dans sa mission de développement de la langue occitane.
Franchement, non. Mais c'est une vieille histoire. Hein. C'est que l'école en France, c'est pas nouveau, a été conçue pour éliminer les langues régionales dès le début. Elle a été aussi conçue pour créer une élite qui devait bien sûr être francophone. Elle a toujours beaucoup de mal à supporter la différence. Hein. C'est-à-dire, c'est un combat permanent. Il y a de très grandes résistances dans l'appareil administratif de l'éducation nationale, pas tant dans les politiques, hein, puisqu'ils reflètent assez la population. Et la population n'est pas contre l'Occitan ici. Hein. C'est même marqueur d'identité, c'est vu favorablement. Il y a des élèves, hein, partout où c'est proposé l'Occitan, il y a des élèves dans les classes. Hein. Donc, c'est pas facile de lutter contre une vision centraliste de l'éducation et d'accepter des réalités locales différentes. Il y a certes des avancées, hein, on a progressé, puisque maintenant on a des écoles bilingues, on a des élèves qui ont une sorte de système et qui parlent bien occitan, mais on en a trop peu. Hein. C'est-à-dire on forme des véritables locuteurs qui ont suivi un enseignement sérieux de l'occitan, on doit en avoir 1 ou 2%, c'est pas assez. Et il y a des différences entre les langues régionales, parce que par exemple en Alsace, on est à 35-40% d'élèves qui sortent et qui ont bon niveau en allemand alsacien. Au Pays Basque, on est autour de 35%. En Corse aussi. Donc il n'y a pas de moyen sur l'occitan, on est vraiment le parent pauvre de cette république qui se dit égalitaire, mais qui en fait traite ces langues de façon différente. Il y a une très grande inégalité, une très grande hypocrisie entre le discours et la réalité.
Et comment vous trouvez qu'elles se manifestent, ces inégalités, alors ?
Et au niveau de l'argent, déjà, les moyens ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'occitan, on a par exemple 4 postes au CAPES d'Occitan pour des régions qui sont peuplées environ de 12 millions d'habitants. Et il y a bien plus de postes, par exemple, pour le Corse, alors que la Corse, c'est 300 000 habitants. Donc ça, ce sont des inégalités flagrantes.
Alors, Nicolas Rebet-Bédé, l'aire occitane s'étend sur un territoire très vaste qui comprend 5 académies. Est-ce que vous avez l'impression que la gestion des 5 académies se fait de manière équitable ?
Non, il y a des disparités assez grandes entre les régions et l'enseignement de l'Occitan. Vous avez des pôles forts, hein, vous avez en particulier l'Académie de Toulouse, dont je fais partie, où l'enseignement de l'Occitan se porte bien, plutôt bien en fait. Et vous avez par exemple d'autres académies comme celle de Bordeaux où il est assez développé dans l'enseignement primaire mais pas dans le secondaire. Donc il y a de grandes disparités et vous avez des académies où il est presque inexistant comme celle de Limoges. Donc ça ce n'est pas normal non plus. Un territoire républicain, pourquoi cette différence de traitement ?
Et pour vous, Nicolas Rebet-Bédé, quel est le principal défi à relever pour l'enseignement de l'occitan ?
Alors le principal enjeu, c'est que l'occitan, je le dis souvent, c'est un plaisir. C'est-à-dire qu'il y a une identité locale qui est encore palpable sur le terrain. Il y a des jeunes qui prennent l'occitan et qui veulent en faire. Et c'est souvent rageant de trouver des empêchements par l'institution. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'on libère plus cet enseignement, qu'on nous laisse faire et qu'on puisse mettre en place un enseignement qui réponde à un besoin tout naturel d'avoir accès à nos racines. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas du tout les autres. Il y a énormément d'élèves issus de l'immigration aussi dans l'enseignement de l'Occitan. Mais l'Occitan est une culture ouverte et on veut pouvoir la vivre librement.
Merci encore à Nicolas Rebet-Bédé pour son témoignage. Merci à tous les autres qui ont témoigné au micro de Lucie Bouteloup. Demain, troisième et dernier volet de notre série sur les langues occitanes. Quelle culture occitane soutenue par cette langue ? C'est donc La Danse des Mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, en partenariat avec la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan